Ma vie n'est la belle, ou plaisir et vanité, par Sophie Gay. Ah mon Dieu, je crois qu'il va pleuvoir, disait Emmanuel de Verbourg à sa sœur Malvina. On ne pourra pas danser ce soir sous les grands tilleuls, quel malheur.
Beau malheur, vraiment, répondit Malvina. N'est-ce pas quelque chose de bien agréable que de sauter avec des paysans,
de figurer en face d'un de ses domestiques? En vérité, mon frère, je ne comprends pas que maman vous laisse aller un bal comme celui-là, après vous avoir mené avec moi au bal de la cour. Si les princes savaient avec qui vous dansez ici tous les dimanches, ils ne vous inviteraient plus à venir voir le bœuf gras dans la cour des Tuileries, j'en suis bien sûr.
Eh bien, le bœuf gras ne se promet-il pas pour tout le monde?
Reprit Emmanuel. Ne dirait-on pas, à t'entendre, qu'on ne peut voir ces Turcs crottés et son amour en tricot de soie qu'à la cour? On le voit aussi bien de la fenêtre de ma tante sur les boulevards, et même à pied dans la rue. Ah, il n'est pas si fier que toi, le bœuf gras. Il se montre au peuple comme au roi. En disant ces mots, Emmanuel regardait sa petite cousine Sophie comme pour lui dire « Tu ne seras pas si ridicule que ma sœur, toi, et j'espère bien que tu viendras à la danse ce soir. »
Sophie n'a que 9 ans, mais elle a compris le regard de son cousin. « Est-ce qu'on nous grondera ? » demanda-t-elle à Malvina, « si nous dansons avec les paysans. »
« Je n'en sais rien, » répond-elle. « Maman te laisse faire tout ce que tu veux, et je ne pense pas au reste, » ajouta-t-elle avec un air de dédain. « Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'être grondée pour faire ce que je dois. » Mais toi, c'est différent.
Ce qui voulait dire, tu n'es pas la fille du marquis de Verbourg. Tu n'as pas l'habitude, comme nous, d'aller chez les petits princes, et tu peux t'abaisser, t'amuser sans cérémonie. En effet, Sophie, quoique fille de l'unique sœur de madame de Verbourg, n'était pas destinée à une position aussi brillante que celle de sa cousine. 5e enfant d'un général mort jeune, dont la veuve avait pour toute fortune la pension de 1500 francs, la petite Sophie avait été presque adoptée par sa tante. Elle la faisait élever à ses frais avec sa chère Malvina, l'espoir, l'intérêt de toute sa vie. Jamais préférence maternelle n'avait paru mieux justifiée, car Malvina, à peine âgée de 10 ans, était déjà d'une beauté et d'une intelligence remarquables. Sa tournure, la manière dont elle savait déjà mettre sa pèlerine brodée et sa petite capote anglaise, enfin sa démarche fière et gracieuse, lui donnait l'air d'une jolie femme vue par le petit côté d'une lorgnette. Les amis de madame de Verbourg ne tarissaient point d'éloges sur l'esprit et les talents naissants de Malvina. On vantait la bonté de son cœur, et l'on avait raison, car elle était charitable. Une partie de la petite somme qu'elle recevait chaque mois était remise par elle au curé de Verbourg pour être distribuée aux pauvres du village. Elle faisait à l'exemple des princesses plusieurs petits ouvrages qu'on mettait en loterie, et cela toujours au profit de quelques malheureux. Mais tout en rendant justice aux sentiments qui dictaient tant de bonnes actions, madame de Verbourg ne se dissimulait point la part que la vanité avait dans ses imitations généreuses. Trop bonne mère pour s'aveugler sur les défauts de ses enfants, madame de Verbourg prévit tout ce que cette faiblesse vaniteuse pourrait coûter un jour au bonheur de sa fille, et elle résolut de la combattre avec autant d'adresse que de persévérance. Les sermons ennuient. Aussi madame de Verbourg n'en fit-elle point à Malvina. Loin de la contrarier dans ses goûts et sa petite gloriole, elle la laissa s'établir dans l'idée que, se sentant fort supérieure aux enfants de son âge, elle avait droit aux déférences, aux complaisances de chacun. Mais en la reléguant ainsi dans un rang supérieur, elle savait bien à quel isolement elle la condamnait.
« Ma tante, » va lui demander Sophie, « est-il vrai que vous ne voulez pas nous permettre de danser ce soir avec les gens du village dans la grande cour du château? Moi, vous empêcher de vous amuser, mes enfants, quand il n'y a pas d'inconvénient à votre plaisir? Et qui donc a pu te dire cela?
Mais... « Je ne sais pas, ma tante, c'est moi qui croyais, à cause des paysans, voyez-vous, parce que... »
Et la petite Sophie ne savait comment se tirer de sa réponse, dans la bonne intention qu'elle avait de ne pas dénoncer sa cousine. Madame de Verbourg devina ce que la bonté de Sophie voulait lui cacher, mais elle ne le lui laissa pas soupçonner, car rien n'est si pénible que de croire inutile le soin qu'on prend pour un ami. Le dîner n'était pas encore achevé lorsque le son aigre des violons et le bruit du tambourin se firent entendre. Les petits pots de crème, les gâteaux d'amandes, tout est abandonné par Emmanuel et Sophie pour courir à la danse. Déjà, Sophie est invitée par le fils du fermier de sa tante. Emmanuel engage une jeune mariée du village. Et les voilà qui sautent à cœur joie. Bientôt, les bourgeois des environs arrivent. Le bal s'augmente. On apporte des chaises pour les belles dames et les maîtres du château. Madame de Verbourg veut voir la fête champêtre. Elle prend sa fille par la main, et tous les habitants du château la suivent. Le premier paysan qui aperçoit ce brillant cortège accourt avec tout l'empressement d'un ambitieux pour obtenir de sa jeune châtelaine l'honneur d'une contredanse.
Mais Malvina, assez embarrassée, le refuse en disant qu'elle a mal aux pieds.
« Vraiment ?» dit sa mère avec un air d'inquiétude. « Tu t'as fait mal aux pieds. Si cela est, il faut t'asseoir là, et ne pas bouger de la soirée, sinon ton mal s'augmentera, et tu seras boiteuse pendant 8 jours. »
Malvina obéit, non pas sans quelque regret, car une loge de polichinelle vient de se dresser près de l'avenue, et les rires qu'on entend de ce côté prouvent assez le plaisir des spectateurs.
Malvina a trop d'esprit pour n'être point sensible aux lazzis de polichinelle, la vengeance qu'il tire toujours de ses ennemis, aux coups de bâton qu'il donne au commissaire, à sa scène romantique avec l'apothicaire, aux pleurs qu'il donne à sa femme après l'avoir assommée, à son duel avec le diable. Enfin, elle se connaît déjà trop bien en spectacle pour dédaigner la représentation comique et tragique du fameux polichinelle, de ce grand-père du mélodrame. Mais ce mal au pied, ce prétexte ingénieusement imaginé pour éviter de danser avec un rustre, ne permet point à Malvina de suivre la foule qui se porte vers le théâtre ambulant. Le succès de polichinelle est si complet que la danse en est un moment interrompue. Madame de Verbourg, cédant aux instants d'Emmanuel, qu'elle prétend n'avoir jamais vu de plus amusant, se laisse entraîner devant polichinelle. On se range pour lui faire place. Une grande et belle fille des environs prend Sophie dans ses bras pour qu'elle puisse voir plus commodément le spectacle. Emmanuel est grimpé sur les épaules du garçon jardinier, et leurs exclamations, leurs cris de joie, chaque triomphe de polichinelle, viennent retentir aux oreilles de Malvina. Restée seule avec sa gouvernante et un domestique de la ferme sous les tilleuls abandonnés, elle fait de tristes réflexions sur le plaisir que sa vanité lui fait perdre. Pleurant presque de dépit, elle est parfois tentée de demander au domestique qui cause avec sa bonne de la porter jusqu'à la cabane de polichinelle pour apercevoir de loin ce beau spectacle. L'idée de se voir porter dans les bras d'un journalier la retient. Elle préfère rejoindre sa mère en contrefaisant la boiteuse. Mais la gouvernante, qui a reçu les ordres de sa maîtresse, s'oppose à ce que Malvina essaye de marcher, et la pauvre enfant se rassied, le cœur gros de regrets et d'ennui. Enfin, polichinelle est corrigée, le diable et ses cornes rouges sont rentrés dans la boîte, et les ménétriers ont repris leur archet. Comme après une première représentation à la Comédie-Française, chacun raconte ce qui l'a le plus frappé. Malvina seule n'en peut rien dire, car elle n'a rien vu. Que fait-elle alors? Ce que font tous ceux qu'un obstacle humiliant a privé d'un plaisir, ils en médisent.
« Ah, que c'était divertissant !» s'écrie Emmanuel. « Comment n'es-tu pas venu voir polichinelle, toi qui aimes tant la comédie ?»«
C'est parce que j'aime la comédie, » répondit Malvina, « que je ne puis m'amuser de ces mauvaises farces, voir donner des coups de bâton à tous les acteurs, entendre bargouiner des mots que personne ne comprend. En vérité, cela ne vaut pas la peine d'aller se mettre dans la foule. » Et le ballet de la mère Gigogne avec tous ses enfants, tu ne trouves pas cela joli? Tu es bien difficile.
Malvina haussa les épaules pour toute réponse.
En ce moment, une calèche à 4 chevaux traversa la grande cour. C'est le duc de Rheindahl, dit madame de Verbourg, et elle se leva pour aller au-devant de lui. Elle revint bientôt, donnant le bras au vieux duc et accompagnée de 3 jolis enfants, dont le plus grand s'empressa d'aller inviter Malvina pour la première contredanse. Fier de danser avec le petit-fils d'un maréchal de France, elle s'apprêtait à accepter l'invitation, lorsque sa mère lui dit « Vous oubliez, Malvina, que vous êtes souffrante, et qu'après avoir eu tout à l'heure mal aux pieds pour refuser Jean-Pierre, vous ne pouvez accepter de danser avec Alméric. » Malvina était déjà levée, sa main était dans celle d'Alméric qui voulait la conduire, sans perdre de temps, à la place d'honneur du bal. Il voulut retirer sa main et se rasseoir, le visage rouge de colère et les yeux pleins de larmes. Alméric, forcé de renoncer à Malvina, se tourna vers Sophie, et tous deux vinrent se placer à la belle contredanse près des maîtres du château. Alors Malvina, cherchant à dissimuler l'humeur qu'elle éprouvait, prit un air souriant pour répondre aux questions que lui adressait le duc de Rheindahl sur l'accident qui lui avait blessé le pied, et elle profita de cette occasion pour flatter le vieux duc sur la jolie Noémie, la favorite de toute la famille, enfant gâtée par sa bonne, plus encore par son grand-père, et dont les caprices étaient insupportables à tout le monde. « Puisque vous êtes si indulgente pour elle, dit le duc, eh bien, soyez sa petite maman, et rendez-la un peu plus sage, car elle fait enrager toute la maison. Pourtant, elle n'a pas encore 18 ans. Et que sera-ce quand elle en aura 10 ? Ah, ma belle Malvina, vous êtes plus heureuse qu'elle, vous avez conservé votre mère. Aussi êtes-vous bien élevée ?»
Ces compliments chatouillaient doucement l'amour-propre de Malvina, et le plaisir d'être traitée comme une grande personne lui fit oublier une minute ses chagrins d'enfant. Mais le retour des danseurs et l'aspect de leur joie la replongèrent dans sa tristesse. Ils venaient supplier Madame de Verbourg de leur permettre de rester encore à la danse.
Cependant, la nuit était venue. On allumait une guirlande de lampions de couleur qui allait rendre le bal encore plus éclatant. Le grand rond, la boulangère, la fricassée même, allaient redoubler la gaieté des danseurs. Il n'y avait pas moyen de les arracher à tant de plaisir. Madame de Verbourg céda aux instances des enfants réunis, et Malvina, voyant qu'elle était condamnée à rester étrangère à ses plaisirs pendant le reste de la soirée, demanda à s'aller coucher. À peine fut-elle partie qu'il s'entama une longue conversation sur son compte entre sa mère et le duc de Rheindahl, dans laquelle Madame de Verbourg avoua que les bals de cour avaient tourné la tête à sa fille, que depuis qu'elle avait eu la faiblesse de l'y conduire, la pauvre enfant ne s'amusait plus de rien, qu'il lui fallait des admirateurs couronnés, des princesses pour bonnes amies, des palais pour salles de bal, et que cette maladie d'orgueil faisait une petite sotte de l'enfant la plus douée des qualités qui rend aimable. On va voir quel fut le résultat de cette conversation. Le vieux duc, ayant promis de venir passer un mois au château, il arriva peu de jours après le bal, seulement accompagné de la petite Noémie, car Almeric et son frère étaient rentrés au collège à la même époque. Ferdinand, l'aîné des frères de Sophie, destiné à entrer incessamment à l'école polytechnique, vint voir sa tante avant de se consacrer entièrement à l'étude. C'était un de ces écoliers d'élite dont l'avenir n'est jamais incertain. Tant les jeunes gens braves, intelligents et fidèles à leurs devoirs sont toujours sûrs d'être employés. On avait beau savoir qu'il était sans fortune, personne ne s'inquiétait de son sort et lui-même, confiant dans son courage, répondait aux curieux qui le questionnaient sur ses moyens futurs d'existence. « Eh, n'ai-je donc pas ma bonne volonté, le nom de mon père? Cela est assez pour faire fortune. » Ferdinand avait de plus un visage noble, une tournure distinguée et toute la grâce que donne l'adresse. Il montait à cheval, faisait des armes et tirait au pistolet avec une supériorité marquée sur tous ses camarades. Ses agréments, joints à une vive tendresse pour sa cousine, avaient inspiré à celle-ci une sincère préférence pour lui. D'ailleurs, il avait toujours protégé son enfance. C'est lui qui la promenait dans son petit chariot. C'est lui qui grimpait aux arbres pour cueillir le fruit qu'elle désirait. Et c'est encore lui qui se laissait accuser et punir de la faute qu'elle avait commise. Tant de bons souvenirs devaient lui répondre de l'affection de Malvina, et quand il pensait à cette affection, il se sentait capable des plus grandes actions pour tâcher de l'augmenter. On rêve à tous les âges, les petites filles surtout. Leur imagination précoce leur fait se créer un avenir pour y vivre en idée. Malvina, avant sa fièvre vaniteuse, s'était vue en espoir la femme de Ferdinand et les épaulettes, dont elle paraît en rêve l'uniforme de son cousin, suffisait à son ambition. Mais depuis qu'elle avait dansé avec des fils de roi, celui d'un simple général lui semblait bien peu de chose. Ferdinand fut donc très froidement reçu par elle. « Sais-tu ce que ta sœur raconte contre moi ? » demanda-t-il à son cousin. « Non, vraiment, » dit Emmanuel. « Et je crois même qu'il n'est fâché contre personne, mais elle est comme cela à présent. Aussi nous l'appelons la belle dédaigneuse. »« Ah, c'est mal de l'injurier ainsi, » reprit Ferdinand d'un ton offensé. « Que veux-tu ? Elle nous ennuie toute la journée avec ses grands airs. Elle ne veut plus jouer à rien. L'autre jour, quand nous avons été à Paris, maman nous avait loué une loge à l'ambigu. Eh bien, Malvina n'a jamais voulu venir parce que maman, ayant besoin de la voiture, nous ne pouvions y aller qu'en fiacre. Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour avoir les pieds dans la paille, et qu'elle aimait mieux ne pas sortir que de monter dans un fiacre et sans bêtises comme cela. Aussi, nous l'avons laissée toute seule à la maison avec la vieille Marguerite, et maman a dit que nous avions bien fait. « Pauvre Malvina, » dit Ferdinand, avec l'accent d'un profond chagrin, « moi qui l'aimais tant. » Et Ferdinand la regrettait alors comme si elle était morte. En effet, la vanité sépare les amis presque autant que la mort. Madame de Verbourg s'aperçut bientôt du changement opéré dans les manières de Malvina avec son cousin. Elle l'attribua d'abord à la manie si commune aux petites filles de prendre encore enfant l'attitude et la retenue d'une jeune personne. Mais le caractère qui se développait dans sa fille ne lui permit pas de se tromper sur la véritable cause de cette froideur dédaigneuse. Elle fit venir un matin Malvina, et sans lui adresser le moindre reproche sur son peu d'aménité avec sa famille, elle lui annonça qu'elle avait une grande confidence à lui faire. Malvina rougit de plaisir, car le sérieux de sa mère en lui parlant ainsi témoignait assez la raison qu'elle lui supposait. « Si j'en juge moins par ton âge que par ta conduite et tes goûts, continua Madame de Verbourg, tu n'es plus une enfant, ma chère Malvina. » Et je puis te consulter sur l'avenir que je te prépare. Tu vas avoir 11 ans. Dans 4 ou 5 ans, tu seras bonne à marier. Et j'ai pensé que je ne saurais m'occuper trop tôt du choix que tu dois faire. Tu aimes la cour, eh bien, je veux te traiter en princesse, c'est-à-dire engager ta main dès à présent à l'homme que tu dois épouser. L'acte signé, Tu resteras avec moi comme font toutes les demoiselles d'un grand nom que le mari poursuit d'arrangements de famille, jusqu'au moment où tu seras en âge d'aller habiter avec ton mari et assez raisonnable pour tenir convenablement sa maison. » À ces mots de mariage, de cour, de princesse, Malvina sentit sa tête s'égarer. Elle se vit déjà parée de diamants, de robes éclatantes. Elle s'entendit appeler madame, et sans même attendre que sa mère lui eût appris le nom du mari qu'elle lui destinait, Malvina répondit de sa soumission aux volontés de sa mère et lui protesta dans toute la franchise de son âme qu'elle serait trop heureuse de lui obéir. « À tout autre enfant qu'à toi, reprit madame de Verbourg, je n'aurais point fait une pareille proposition. Et on obtient rarement de tels avantages sans de grands sacrifices, et j'en connais beaucoup que l'ennui de vivre avec un vieux mari, les devoirs attachés à un rang élevé, intimideraient, et qui préférerait un mari jeune, aimable, avec une fortune médiocre, à l'honneur de briller à la cour à côté d'un vieillard. Mais cela dépend des goûts, et j'en réfère au tien. Tu connais le duc de Rheindahl, eh bien, il veut se remarier, et il te propose de t'épouser secrètement dès demain, à la condition de te laisser près de moi jusqu'à ce que tu sois grande. Tu seras duchesse, mais tu n'emporteras le titre qu'à l'époque où nous déclarerons ton mariage. Réfléchis bien à cette grave proposition. Je ne veux pas que tu m'y répondes aujourd'hui, mais après-demain. J'attendrai ici ta décision, et favorable ou non, je te promets de m'y conformer. » Une proposition sérieuse de mariage faite à une petite fille, être duchesse à 10 ans, c'était de quoi faire tourner la tête à des plus sensés que Malvina. Aussi passa-t-elle dans une sorte de délire les 2 jours et les 2 nuits qu'elle devait employer à réfléchir. Dans son impatience de voir réaliser le projet qui comblait ses vœux, elle se rendit de bonne heure chez sa mère et la trouva occupée à lire un grand papier timbré qu'elle présenta à sa fille. Voici le contrat qui a été dressé par le notaire du duc de Rheindahl. Les clauses en sont fort convenables. Comme tu ne connais encore rien à ces sortes d'intérêts, c'est moi qui t'ai chargé de le discuter et tu n'as plus qu'à signer. » Malvina ne se fit point répéter ces mots, et sans la moindre objection, elle prit la plume que lui présentait madame de Verbourg, se mit à inscrire son nom au bas de chaque page. Comme elle s'appliquait à tracer de sa plus belle écriture les lettres de son nom, le duc de Rheindahl entra, vint l'embrasser en l'appelant sa chère petite femme, puis mit sa signature griffonnée à côté des lettres moulées du nom de Malvina de Verbourg. À peine avait-il fini qu'Emmanuel vint dire bonjour à sa mère. Sophie et Noémie l'accompagnaient. Toute conversation sérieuse devint impossible. Le reste de la journée se passa à recevoir plusieurs visites de campagne, et le lendemain, madame de Verbourg apprit à Malvina que le duc de Rheindahl venait de partir pour Paris, après avoir reçu une lettre du ministre de la guerre. « Il m'a bien recommandé en partant le secret sur ce qui s'est passé entre nous hier, car si sa famille apprenait ce mariage avant qu'on pût le déclarer, elle chercherait tous les moyens de s'y opposer. Aussi réclame-t-il de nous le plus profond secret. Comme il est d'usage de faire un présent à sa fiancée après la signature du contrat, et qu'il ne peut offrir une corbeille de mariée que la veille du jour où vous recevrez la bénédiction nuptiale, il m'a remis cette jolie montre que sa vieille amitié pour notre famille lui permet de te donner sans que personne le trouve extraordinaire. » En disant cela, madame de Verbourg passait au cou de Malvina une chaîne émaillée à laquelle tenait une petite montre des plus élégantes. Avec quel plaisir Malvina se para de ce premier don qui lui en présageait tant d'autres. Comme elle se tint droite et se donna tous les airs qu'elle croyait convenables à sa nouvelle situation, avec quel noble dédain elle traita ses petites amies qui venaient lui proposer de jouer, et les maîtres d'agrément dont les leçons lui semblaient maintenant inutiles. « Pourquoi veut-on savoir peindre ou chanter ? » pensait-elle, pour s'attirer des compliments et trouver un mari. « Je n'ai pas besoin de me donner tant de peine, moi dont le sort brillant est assuré. » Pendant qu'elle perdait son temps en projet de vanité, Sophie et ses autres compagnes travaillaient à se rendre aimables. Madame de Verbourg donnait chaque hiver de petits concerts où les plus fortes se faisaient applaudir. Ferdinand, que ses études de mathématiques n'empêchaient point de cultiver les arts, était le Rossini de ses grandes soirées. Il tenait le piano et chantait la partie nécessaire du trio ou du morceau d'ensemble qu'on voulait exécuter. Malvina seule n'était pour rien dans ses réunions musicales. Elle allait se placer auprès de quelques vieilles douairières et se faisait moquer d'elle par les vieux comme par les jeunes, car on s'étonnait de ne pas lui voir faire une partie dans le concert. Sa paresse lui attirait autant d'humiliation que sa vanité lui faisait d'ennemis. Cependant, chaque jour elle devenait plus belle. Mais tous ceux que sa beauté attirait près d'elle s'en éloignaient bientôt, ennuyés par le récit continuel des fêtes pompeuses auxquelles elle était admise, et la nomenclature des grands noms des gens qu'elle voyait. Il y avait bien aussi quelques dissertations sur le plus ou moins d'élégance de la femme à la mode, mais rien de plus. Et cette conversation insipide décourageait même les plus intéressés à plaire. Enfin, à 14 ans, Malvina passait déjà pour vaine et ennuyeuse. On la traitait en conséquence. Ferdinand seul s'obstinait à vanter son esprit, son caractère élevé, mais on mettait ses éloges sur le compte d'un aveuglement bien naturel, et l'opinion n'en restait pas moins défavorable à sa cousine. « Elle a beau se contraindre, » pensait Ferdinand. « Je le vois, à travers l'air de froideur qu'elle affecte, elle n'est point heureuse. » Et pénétré de ses douloureuses pensées, il s'approchait de Malvina, excitait sa bonté par la confidence de quelques chagrins à lui, puis lui demandait sa confiance. Il finissait par lui peindre avec tant de vérité l'état pénible où elle abandonnait son âme, le manque d'affection qui rendait sa vie monotone et triste, qu'il arrivait à faire couler ses larmes. « Il est trop vrai, » lui dit-elle un jour, « je ne suis point heureuse, mais comme je ne puis plus l'être, ne vous occupez plus de mon bonheur. » C'était demander l'impossible. Ferdinand ne rêvait d'autre bonheur au monde que celui de Malvina. Elle le savait. Il avait acquis ses talents, ses grades, enfin tous les avantages qui font un homme distingué, dans l'espoir d'être un jour aimé d'elle, et ce jour était arrivé. Bien que Malvina fût restée plusieurs années sans voir le duc de Rheindahl, qui vivait dans ses terres, elle n'en était pas moins fidèle à ses engagements avec lui. Quelques airs ridicules, quelques manières empruntées à de vieilles duchesses, auraient pu seules trahir son secret. Mais on était accoutumé à la voir avec ses travers. On les crut incorrigibles. Cependant, Malvina commençait à s'apercevoir de l'exil volontaire où ses défauts la plongeaient. Sans amis pour confier ses peines, destinée à souffrir l'humeur d'un vieux mari qui, ne pouvant être aimé, serait nécessairement jaloux, l'avenir l'effrayait. Mais ce fut bien pire encore lorsqu'elle s'avoua le sentiment qu'elle portait à Ferdinand. « J'aurais pu être sa femme, » pensa-t-elle, « j'aurais pu seconder sa noble ambition, car il sera bientôt colonel, j'en suis sûr. Il est si brave, si distingué, il m'aime tant. Ah, je le regretterai toute ma vie, mais il ne faut pas qu'il le sache. » Et des larmes amères baignaient le visage de Malvina. Mais soutenue par sa fierté, elle sèche ses pleurs et va supplier sa mère de presser leur départ pour le château qu'habite le duc de Rheindahl. En vain, sa mère lui représente que le vieux duc ne les attend qu'à la fin de l'été. Malvina veut s'éloigner de Paris et de tous les endroits qui lui rappellent la présence de Ferdinand. « Comment cela se peut-il ? » dit Madame de Verbourg étonnée. « Toi qui ne t'es mariée si jeune que pour vivre à la cour, pour y jouir des rangs supérieurs aux autres, tu veux aller t'enfermer dans le château d'un vieillard goûteux et renoncer au plaisir du grand monde, je ne te comprends plus. »« Hélas, je ne me comprends plus moi-même, » dit Malvina en levant les yeux au ciel, « mais il faut que je parte. » Madame de Verbourg, vaincue par les prières de sa fille, ordonne qu'on prépare tout pour leur prochain départ. Déjà, les malles sont faites. Pendant qu'on les attache sur la voiture, Madame de Verbourg fait servir le déjeuner. On avertit Malvina. Elle arrive la pâleur sur le front, les yeux rouges et la respiration pénible. « Oh mon Dieu !» s'écrie sa mère. « Tu as été malade cette nuit, tu as la fièvre, j'en suis sûr. Il ne faut pas te mettre en route dans cet état-là. »« Tranquillisez-vous, je ne suis point malade, » dit Malvina en s'efforçant le sourire. « Je n'ai qu'un peu de mal à la tête, le grand air me fera du bien. »« Si cela est, prends une tasse de café, » dit Madame de Verbourg, « et ta migraine passera. » Mais la pauvre Malvina est trop vivement oppressée pour qu'il lui soit possible de rien avaler. En ce moment, on entend la sonnette du portier. « Quelle visite peut nous arriver à cette heure ?» dit Madame de Verbourg. « J'ai défendu qu'on laissât entrer personne. »« Pardon ?» dit une voix que Malvina a trop bien reconnue. « Mais je passais devant votre porte pour aller chez mon colonel. J'ai vu des chevaux de poste à votre voiture. On m'a dit que vous partiez pour la Bourgogne et, ne pouvant le croire, j'ai voulu savoir de vous même si... » Ferdinand ne peut achever. Il a vu la pâleur de Malvina. L'expression douloureuse répandue sur toute sa personne lui annonce un malheur. Il n'ose choisir dans ceux qui se présentent à son idée. Mais un cruel pressentiment lui dit que Malvina est perdue pour lui. Il est obligé de s'asseoir, car ce jeune officier, si brave contre le danger, tremble à la seule pensée de se séparer de sa chère Malvina. Madame de Verbourg le rassure sur la longueur de leur absence et laisse entendre à Ferdinand qu'une affaire importante, qui a pour but le mariage de Malvina, est le motif de ce brusque départ. En voyant l'effet que produit cette nouvelle sur Ferdinand, Malvina se sent prête à se trouver mal. Un instant de plus, et elle n'aura pas la force d'aller jusqu'à la voiture. Dans son anxiété, elle se lève, rend le portefeuille qui contient les dessins que Ferdinand a fait pour elle, et marche vers l'escalier. mais les pleurs qui s'échappent de ses yeux, ses sanglots qu'elle ne peut retenir, elle ne veut pas en donner le spectacle domestique qui remplisse le vestibule. La porte de la chambre de sa mère est ouverte, elle y entre, se jette sur un canapé, et là, elle s'abandonne à tout l'excès de sa douleur. Dans quel état te vois-je, mon enfant? Quel chagrin peut t'accabler ainsi dans le moment où tes vœux vont être comblés? Dit Madame de Verbourg, qui avait suivi Malvina sans que sa fille s'en fût aperçue. Est-il permis à la duchesse de Rheindahl de se livrer comme une enfant à un chagrin imaginaire, car il ne peut être fondé? Songe que tu vas revenir dans 2 mois pour être présentée à la cour, que tu y seras brillante, admirée, que nulle femme n'aura de plus beaux diamants, de meilleures maisons, de plus jolis chevaux, qu'enfin tu seras la plus élégante de toutes les duchesses. « Ah, ma mère !» s'écria Malvina en cachant sa tête dans ses mains. « N'augmentez pas ma douleur par cette cruelle ironie. Vous lisez trop bien dans mon âme pour ignorer la cause de mon malheur. Vous savez comme moi que ces plaisirs de vanité ne peuvent plus me rendre heureuse, que mon cœur a besoin d'affection et que déjà depuis longtemps je meurs de regret d'avoir sacrifié ma vie à l'espoir de briller. Ah, si je pouvais adresser un reproche à une mère aussi parfaite que vous, j'oserais vous demander pourquoi, loin de combattre le misérable orgueil qui m'aveuglait, vous avez attendu que le malheur vînt m'éclairer. Mais ce malheur, je l'ai voulu. Je le supporterai avec courage. Jamais d'autre que vous ne saura mes regrets. Le ciel me donnera la force de remplir mes devoirs. Je vivrai, Rheindahl, loin de la cour, loin du monde qui me rappellerait ce que je perds pour lui. Enfin, je ne reverrai plus Ferdinand. » À cette pensée, les larmes de Malvina redoublent. Sa mère garde le silence. Elle pleure aussi, mais le sourire de la joie anime ses traits. « Partons !» dit Malvina en se levant brusquement. « Partons !» Son regard se porte alors sur sa mère. Elle est frappée de l'expression de bonheur qui brille à travers ses larmes. Elle ne se sent plus à plaindre. Quel enfant peut croire au malheur en voyant sourire sa mère? « Se peut-il ? » s'écrie Malvina éperdue. « Quoi, je pourrais encore être heureuse ?»« Oui, mon enfant, » dit Madame de Verbourg en serrant Malvina sur son cœur. « Mais il fallait te tromper pour cela. Il fallait satisfaire ton ambition vaniteuse pour t'en montrer le néant. Il fallait trouver un vieil ami spirituel pour se prêter à figurer un contrat comme celui que nous t'avons fait signer. Enfin, il fallait un charmant cousin et une mère bien courageuse pour te laisser pleurer si longtemps. » On renvoie les chevaux de poste. Ferdinand reste à dîner chez sa tante. 2 ans après, il était colonel et Malvina était sa femme. Ainsi s'achève Malvina la Belle par Sophie Gay.